Le journal, Jacques-Yves Molima.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal Parler. Au sommaire de cette édition, journée mondiale des personnes vivant avec handicap ce dimanche, une marche d'honneur à la fanfare et des jeux compétitifs à Kindu, journée porte ouverte à Kinshasa au village Bondeko, une manière pour eux de rompre tout préjugé qui plane sur leur handicap. Les détails dans cette édition du journal Parler. Pendant ce temps, le gouverneur de la province orientale plaide pour la mise en application du contrat programme fixé par le ministère de l'Intérieur dans le district de Haut-Touélé. Jean-Pierre Lola Kisanga interpelle les administrateurs des territoires à réaliser ce contrat axé sur la sécurisation des personnes et de leurs biens en vue de combattre l'impunité. Enfin, à Goma, en vue de maximiser les recettes de l'État, un contrat vient d'être conclu entre l'OFIDA et la SONAS. Ce protocole permet à l'OFIDA de percevoir pour le compte de la SONAS la prime d'assurance des responsabilités civiles sur tout véhicule importé entrant au Nord Kivu. Voilà tout pour le sommaire dimanche 3 décembre 2006. Bonjour à tous. Le monde entier rend hommage ce dimanche aux personnes vivant avec handicap, thème de cette journée mondiale, personnes vivant avec handicap, hommes comme toi. À Kindu, plusieurs manifestations ont marqué cette journée, notamment la marche à la fanfare, les jeux compétitifs. Les manifestants, personnes vivant avec handicap, ont saisi l'opportunité pour adresser un message aux autorités du pays. Gabriel Wamenya pour le détail.
Ils sont venus de toutes les trois communes de la ville de Kindu. Alunguli, Mikelenge et Kasuku, la commune mère qui a constitué d'ailleurs le point de départ de la marche qui a débouché à la salle Champagna de l'Institut de l'Enano de Kindu. Dans une foule nombreuse constituée de handicapés physiques et tout âge et sexe confondu, poussés sur des tricycles ou tenant des cannes et béquilles pour les autres, on pouvait aussi apercevoir les handicapés auditifs comme les sourds. Dans leur mode de circonstance, les personnes vivant avec handicap de Kindu n'ont pas manqué de fustiger la méfiance manifeste des autorités de la province à l'endroit des personnes vivant avec handicap au maniement, pourtant aptes sur le plan mental. La dernière recommandation faite par les handicapés du maniement au gouvernement, c'est la reconnaissance de leur statut et aussi leur intégration dans la vie professionnelle. Pour l'instant, la marche se poursuit et le cortège est en train de se diriger vers le grand monument de Kindu. Kindu, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Toujours en ce qui concerne les personnes vivant avec handicap, à Kinshasa, le village Bondeko, une des écoles de Kin qui accueille les enfants vivant avec handicap, avait organisé hier samedi une journée porte ouverte. Le but de cette séance, montrer au public comment ces enfants sont pris en charge en vue de rompre tout préjugé qui plane sur leur handicap. Stéphane Mukendintita.
Créée par l'Église catholique lors de la célébration du deuxième centenaire de l'évangélisation de la RDC en 1980, le village Bondeko-Libanga est l'un des 16 centres qui forment l'œuvre diocésaine pour l'enfant vivant avec handicap à Kinshasa. Avec un effectif de 107 élèves, cette école accueille des handicapés auditifs communément appelés sourds et des retardés mentaux. Paul Ntumba, directeur du village Bondeko-Libanga, nous donne son point de vue sur la prise en charge des enfants vivant avec handicap.
L'enfant congolais, disons l'enfant vivant avec handicap, n'est pas vraiment pris en compte comme il se doit. Nous remarquons que dans beaucoup de milieux, l'enfant vivant avec handicap est marginalisé. Nous devons continuer à sensibiliser davantage la communauté pour qu'elle puisse considérer l'enfant vivant avec handicap au même titre que l'enfant valide.
Quant à la question de savoir comment ce centre procède pour l'inscription de ses élèves handicapés, Paul Ntumba précise qu'après avoir prélevé l'identité de l'enfant, les encadreurs effectuent une étude sur l'origine de l'handicap dans le but de savoir s'il est acquis ou inné, et ce n'est qu'après qu'intervient la formation proprement dite. Cependant, bien que bon nombre de parents envoient leurs enfants handicapés dans des centres spécialisés comme le village Bondeko-Libanga, beaucoup reste à faire du côté du gouvernement. Selon Dr Desmet, attaché à l'ambassade belge en matière de santé, une table ronde des ministères concernés serait utile pour l'amélioration de la prise en charge de l'enfant vivant avec handicap en RDC.
Rendons-nous à présent dans la province orientale où le gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga interpelle les administrateurs des territoires du district Haut-Touélé, le numéro 1 de la province orientale, lors d'une réunion élargie tenue samedi dernier à Iziro, les invite au respect et à la réalisation du contrat programme tel que fixé par le ministère de l'Intérieur au cours des 3 derniers mois de la transition. Contrat programme axé sur la sécurisation des personnes et de leurs biens, l'aide aux victimes de violences en vue de combattre l'impunité ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'État. Jacques Moukonkole.
Le commissaire de district du Haut-Ouélé, le chef de cité du Siro, les administrateurs de ce territoire qui compte ce district, ainsi que les chefs des corps de services spécialisés, ont assisté à cette rencontre. S'agissant particulièrement de la sécurisation des personnes, le gouverneur a ordonné la levée des barrières existantes sur certains axes routiers, l'éradication du banditisme urbain, l'extorsion des biens des populations, ainsi que les viols de personnes humaines. Ces pratiques, selon les administrateurs de territoire, sont encore de mise à l'arrière-province. Jean-Pierre Lola les a exhortés à l'usage rationnel des instruments juridiques dont ils disposent pour rétablir l'autorité de l'État. Par ailleurs, le commissaire de district a attiré l'attention du gouverneur sur la fragilité de nos frontières avec l'Ouganda et le Soudan, notamment à Faradje, où on aurait observé un mouvement de militaires étrangers alors que nos forces armées sont totalement absentes. Jacques Moukonkolé, Isiro, Radio Okapi.
Restant dans la province orientale pour parler toujours de l'administration publique, sachez que le chef de groupement de Bagema Mitego, localité située à 80 km au sud-est de Bounia dans le district de l'Ituri, est suspendu pour une durée de 3 mois. La décision a été prise par le commissaire de district, Madame Petroni Vawika. En effet, il est reproché au chef coutumier de faciliter l'infiltration d'éléments étrangers armés non encore identifiés sur le sol congolais. Dans un communiqué officiel, l'autorité demande au chef coutumier de l'entendre en audition officielle. Petroni Vawika, commissaire de district, s'explique au micro de Jean-Claude Bissiliabou.
Ce chef de groupement permet aux étrangers de passer sur le sol congolais sans aucune formalité. Et ces gens-là qu'il a accueillis sont au nombre de plus ou moins 50 personnes. Et ces personnes sont de nationalité étrangère, donc pas congolaise. Et ils viennent soi-disant avec leurs vaches pour les faire paître chez nous, mais aussi ces personnes sont armées. Certains parmi eux ont tiré sur les éléments de la FRDC qui sont déployés dans ces coins parce que c'est la frontière. Donc vous voyez que c'est une, je peux même parler de trahison parce que c'est très fort.
À Ouvira, c'est plutôt 7 civils rwandais qui sont tombés dans le filet des services de sécurité arrêtés le week-end dernier à la frontière de Kavimvira. Ils sont détenus, ces 7 civils rwandais, depuis hier samedi matin à la direction générale de migration d'Ouvira. Ils sont accusés par les services de sécurité d'entrée frauduleuse et illégale sur les sols congolais. Ces Rwandais auraient fui le tribunal populaire Gacaca dans leur pays depuis 2005 et se sont réfugiés au Burundi et en République démocratique du Congo où ils espèrent trouver un asile. La direction générale de migration est en train de statuer sur leur sort. Fiston Goma pour les détails.
Selon le service national de renseignement à Ouvira, ces 7 personnes auraient traversé la frontière de manière irrégulière. 4 parmi eux avaient des pièces d'identité burundaises et de laissez-passer délivrés au Burundi, tandis que les 3 autres étaient sans papier. Selon leur déclaration, ils auraient fui leur pays, le Rwanda, en 2005, après le démarrage des tribunaux de village, le Gacaca, pour s'installer au Burundi. Après l'identification par le gouvernement burundais de tous les étrangers vivant au Burundi, ils disent avoir voulu traverser la frontière pour trouver un statut de réfugié en République démocratique du Congo. Pour la Commission nationale pour les réfugiés, la CNR, antenne d'Ouvira, la procédure de demande d'asile pour ces demandeurs n'a pas été respectée et leur vie n'est pas en danger. Le chef de poste spécial des migrations, Ouvira, a indiqué pour sa part que ces personnes pourraient être renvoyées au Burundi lundi prochain au cas où la Commission nationale des réfugiés ne leur reconnaissait pas le statut de réfugiés, car, a-t-il précisé, leurs documents migratoires sont en ordre. Fiston Goma Mayabala, Ouvira, Radio Okapi.
Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo et rendons-nous plus précisément à Goma pour vous dire qu'un accord a été conclu vendredi dernier entre la SONAS et l'OFIDA quant à ce qui concerne la maximisation des recettes de l'État. En effet, ce protocole permet à l'OFIDA de percevoir pour le compte de la SONAS la prime d'assurance de responsabilité civile sur tout véhicule importé ou d'immatriculation étrangère entrant dans la province du Nord Kivu. Mais comment cela va se passer concrètement sur le terrain? Qu'est-ce que la SONAS va gagner en faisant ce travail? Le directeur provincial de la SONAS Nord Kivu, Victor Kanyaman Kasereka, répond au micro de Denise Loukesso.
L'OFIDA procédera sur base des tarifs que nous lui aurons remis et l'OFIDA va transférer cet argent dans un compte bancaire que nous lui aurons indiqué. Ici, ce sont des véhicules qui sont importés ou des véhicules qui entrent en tourisme qui devront faire un beau bout de temps sur notre territoire. Il y a des véhicules dans le cadre du CPGL, s'ils sont porteurs d'un certificat d'assurance dûment rempli par leur pays d'origine, ces véhicules-là ne seront pas frappés d'une prime spéciale à l'entrée. Cette assurance frontalière, c'est une assurance d'un mois. L'OFIDA perçoit une commission de 10% de la prime commerciale.
Sachez que la prime à percevoir sur chaque véhicule tourne autour des $50 américains. Selon le directeur de la SONAS, le montant varie selon la date de fabrication du véhicule, sa capacité de transport ainsi que son usage. Au Katanga, la société minière Tech Fungurume s'est dit prête à compenser et à régler la question de la pollution des habitants de la cité de Tenge Fungurume. L'information a été livrée hier samedi lors de l'exposition à Lubumbashi du projet d'exploitation minière et de traitement du cuivre et du cobalt au Katanga par la société minière Tenge Fungurume Mining. Ce projet consiste à évaluer les impacts environnementaux et sociaux de la cité. Des mesures d'atténuation sur la pollution ont été prises au cours de cette journée porte ouverte. Pour l'exemple, trois villages de près de 600 familles environnant le site minier seront déplacés pour un endroit sans risque, comme nous le confirme Mme Jeliki Toto, agent social à Tech Fungurume Mining. Elle est au micro de Nelly Kabena.
Ces gens-là, on va leur construire de nouvelles maisons et tous leurs biens seront évalués et payés à la valeur plus 50%. Toutes ces communautés seront accompagnés dans cette réinstallation dans l'agriculture avec un appui qui est vraiment consistant, surtout durant les trois premières années de faible productivité. Ces gens-là sont d'abord compensés pour les pertes de récoltes sur un taux qui a été calculé sur la base de la moyenne des prix que nous avons observé pendant une année dans la zone. Ils seront appuyés durant les premières années et même durant toute la période, je crois, du projet. Et voilà quelques mesures d'accompagnement qui sont prises par TFM pour justement assurer que cette réinstallation soit une opportunité de développement.
Propos confirmés aussi par un habitant du village Kiboko à Tekin Fungurume qui affirme qu'avec ce nouveau site, ils seront à l'abri de la pollution de l'air. Mais les risques sont toujours grands au niveau de la nappe aquifère, a-t-il indiqué à Radio Okapi. Près de 4000 mètres de câbles électriques qui alimentent l'aéroport international de Bangboka, nous sommes là à Kisangani dans la province orientale, ont été volés. Les responsables de cet aéroport international n'arrivent pas. Le constat de ces vols a été fait vendredi dernier par la police et la mairie de Kisangani. En croire le commandant vide de la police nationale congolaise, 8 suspects sont aux arrêts pour raison d'enquête. Des hommes en uniforme, notamment ceux basés à l'aéroport, sont complices dans cette affaire. Certains parmi eux sont déjà passés aux aveux, a dit le major Nestor Sidinkou. Le commandant de l'aéroport international de Bangboka déplore cette situation qui, selon lui, porte de graves préjudices à son institution. Pansou Kiyama au micro de Aliana Alipanagama.
Ce sont des actes criminels qu'il faut vraiment alors liquider avec la dernière énergie. Quand un aéroport n'a plus de courant, cela veut dire que l'aéroport est pratiquement inexploitable. Il n'y a pas moyen de mettre en service les moyens de télécommunication, il n'y a pas moyen de mettre en service les moyens de navigation aérienne, il n'y a pas moyen de mettre le balisage de secours en marche. Mais quand un avion vient, il a besoin d'une route. La route, c'est justement le vor et le DME qui donnent la route. Mais qui n'a pas de courant, il n'est pas en service. Donc il ne peut pas fonctionner. Mais quand l'avion doit atterrir, ce sont les moyens de navigation aérienne qu'on appelle navette, qui sont privés du courant, qui ne peuvent pas fonctionner, donc ne peut pas donner l'occasion à l'avion d'atterrir, parce qu'il ne voit pas. Le balisage de la piste, pour poser l'avion au sol, il faut que le balisage de piste s'allume. Or, quand il n'y a pas de courant, on ne peut pas allumer le balisage de piste. Donc, une fois le courant est coupé à l'aéroport n'est plus exploitable.
À noter que les vols de câbles électriques en cuivre sont devenus monnaie courante ces trois derniers mois en province orientale. L'eau potable à Bafouassendi, territoire situé à 264 km de Kisangani, le comité international de la Croix-Rouge, CICR, a remis 9 sources aménagées et 6 puits construits avec buse en béton armé muni de pompes à main à l'administrateur du territoire. La cérémonie de remise a eu lieu samedi 2 décembre 2003 en présence d'une foule nombreuse. Il y a de cela plusieurs décennies, la cité de Bafouassendi consommait de l'eau de sources à ciel ouvert. De Bafouassendi, en ce même soir.
Merci et longue vie à CICR, criait la foule au moment de la remise de ces ouvrages. Trois puits dans chacun des deux quartiers de la cité de Bafouassendi et les 8 sources dans les périphéries de la cité. Des bidons, des bassinets et seaux à main, chacun attendait son tour pour puiser de l'eau potable. L'administrateur du territoire a été la première à manier la pompe pour servir la population et à boire l'eau de la source. Adel Kafouana a saisi l'opportunité pour instruire les chefs de quartier et de bloc à veiller à la protection de l'ouvrage et à l'assainissement des sites où se trouvent ces puits et sources. Le CICR, à la fin de son travail, promet de passer chaque trimestre pour injecter du chlore dans chaque puits et source aménagée, ainsi garder l'eau potable. 2 mois ont suffi au CICR pour terminer ces ouvrages construits avec le concours de la population. De Bapfoua Sendé, Anselme Massoua, Radio Capi.
Un mot sur la page internationale. Le Malgache vote ce dimanche dans les calmes. Ils élisent leur nouveau président de la République dans la course. 14 prétendants, dont le chef de l'État sortant de Madagascar, Marc Ravalomanana, donné grand favori. Quelques 7 millions d'électeurs sur une population d'environ 18 millions d'habitants ont jusqu'à 18 heures locales pour se rendre dans les quelques 17 500 bureaux de vote répartis sur cette grande île. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal Parlé, mise en onde par Sylvain Baugueri. Merci à Jean-Claude Toumba-Kamanga pour la préparation. Moi, Jacques-Yves Molima, je vous dis merci.